Investir Malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefèvre, cofondateurs du site construiresaretraite.com.
Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins. Voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements sous toutes leurs formes. Alors, l'envie d'investir ne vous a pas quitté, mais avec cette crise sanitaire qui se transforme progressivement en crise économique, vous ne savez pas vers quel support vous orienter. Et puis, vous n'avez par ailleurs peut-être pas envie de prendre trop de risques et d'investir des sommes conséquentes. Alors, sachez que vous pouvez accéder à un support immobilier qui peut être tout à fait rentable et qui reste pour autant abordable. Alors, vous vous demandez sans doute quel est ce support.
Eh bien, cette fois, il s'agit bien des parkings et des garages. Et pour ça, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Parking en France, Julien Bédoué, fondateur du site parkinggarage.fr, un site spécialisé dans l'accompagnement et le coaching dans l'investissement parking et garage. Vous l'avez compris. Julien Bédoué, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant toute chose, pouvez-vous nous expliquer quels sont les avantages à investir dans les parkings et les garages ?
Déjà bonjour et merci pour votre invitation que j'accepte avec plaisir. Alors comme vous l'avez dit, en plus de que ce soit une modique somme d'investissement et puis que ce soit dans les temps de crise, les parkings reviennent à la mode. On l'a contesté en 2012 et puis là ça revient en 2021. Moi j'ai, pour les investisseurs malins, j'ai tendance à dire que c'est rusé, c'est-à-dire que c'est rentable, ultra diversifié, sécurisé et efficace. C'est rentable parce que emplacement égal, on se rend compte que les parkings en sous-sol sont toujours plus rentables que les appartements qui sont au même endroit en hauteur, notamment parce qu'il n'y a pas de travaux tout simplement. C'est diversifié parce que pour 2000 euros de loyer, vous avez peut-être 10, 20 locataires de parking quand vous en aurez 3 ou 4 pour les investir pour un appartement. Et ça, je peux vous dire que les banquiers, ils adorent. Moi, j'aurais jamais acheté 234 garages si j'avais pas eu 234 petites lignes de loyer qui tombaient. Ça n'aurait jamais...
234 garages.
Ouais, d'accord. En 7 ans. Voilà. Et ça, ma banquière me l'a dit, c'est pas moi qui l'invente. C'est sécurisé parce que vous n'êtes pas dépendant des lois d'Allure ou de 1789. Vous êtes sur du code civil, vous faites ce que vous voulez, un petit peu comme les locaux commerciaux. Enfin, c'est encore moins encadré, tout ça. Pas d'encadrement de loyer, vous êtes vraiment bien. Et puis c'est efficace parce que peu de temps de gestion, parce que vous n'avez pas les travaux. Et puis la relation locative, elle est assez bonjour, au revoir, voilà le badge, et puis hop, on fait la location.
D'accord.
Alors, quand on parle d'immobilier, souvent, il y a la règle d'or qui revient régulièrement, c'est-à-dire l'emplacement. Est-ce que pour les parkings, c'est pareil ? C'est-à-dire que, est-ce que finalement, dans une ville, il y a des zones urbaines particulières à privilégier par rapport à d'autres ? Est-ce qu'il y a des règles, des macro-règles qui se dégagent ?
Alors exactement, l'emplacement, ça fait partie des 7 critères clés que j'ai identifié pour voir la qualité d'un parking ou d'un garage. Là aussi, on est dans le deuxième, donc forcément, c'est vachement mieux placé qu'un parking qui serait dans le 19e, où vous allez avoir du mal à louer, parce qu'il y en a pléthore. On voit que de toute façon, au niveau prix, c'est du simple au double. L'emplacement, ici, dans cet immeuble, le parking qui est au moins 1, il va se louer bien plus facilement que celui qui est au moins 7 ou moins 8. Donc ça se vérifie aussi bien dans l'immobilier traditionnel que dans les parkings.
Bien sûr. Et à l'instar de l'immobilier d'habitation, est-ce qu'il existe des villes pour lesquelles l'investissement dans les parkings est beaucoup plus porteur ?
Alors oui, je vais vous donner deux exemples de villes dans lesquelles j'ai vécu.
Alors demain, c'est l'émeute.
On va parler de Saint-Etienne et d'Angers, d'accord. Saint-Etienne, j'ai vécu pendant 4 ans. C'est une ville qui a perdu 25% de sa population en 60 ans. Ouais. Donc forcément, vous vous dites bien que sur l'immobilier d'habitation, on a 1000 euros le mètre carré. Et puis sur le parking, c'est corrélé l'un dans l'autre. Donc vous investir à Saint-Etienne, ça va être vachement plus rentable que Paris ou Angers. Mmh. Angers, il y a une bonne dynamique, on est dans le Grand Ouest. Alors on n'est pas au Sable d'Olonne, ça reste vachement plus porteur. Donc vous aurez plus de rendement à Saint-Etienne que dans une ville qui est dynamique. Ça, c'est assez logique. Moi, j'ai tendance à dire que comme le marché des parkings, c'est quelque chose d'assez de niche, il y a beaucoup moins d'annonces que sur l'immobilier d'habitation. Il ne faut pas forcément choisir son investissement par rapport à une ville qui est porteuse ou pas, mais plutôt partir comme en finance, c'est-à-dire qu'on fait une approche bottom-up. C'est-à-dire qu'on prend l'opportunité, on analyse et ensuite on remonte au niveau du quartier, au niveau de la ville, pour voir s'il y a la demande locative qui est présente. D'accord ? On fait d'abord sa recherche et dans une zone très large et ensuite on analyse point par point.
C'est ce que j'allais vous lire parce que vous dites sur Saint-Etienne, effectivement, ça peut être intéressant, mais il faut quand même avoir des locataires.
C'est parce que pas de locataire, pas de mandat.
Il manque quelque chose dans l'équation, là.
Exactement. Ouais. C'est pour ça que l'emplacement, le rendement, ça fait partie vraiment des 7 critères. C'est les deux qu'on regarde en premier pour voir la qualité d'un parking.
Alors justement, en parlant de rendement, on ne va pas se voiler la face. Hein, ce qui intéresse aussi les auditeurs, c'est la rentabilité. Mmh. Si on se dit, voilà, je vais me lancer dans l'aventure, je vais investir dans des parkings, à quoi on peut s'attendre en termes de rentabilité?
Alors ici, sur Paris, clairement, on va être en net de charges et de taxes foncières, on va être autour de 3-4%. Donc, ce qui est déjà pas mal par rapport à l'immobilier traditionnel. Hein. Si on est un investisseur fortuné, bah, on peut se permettre d'avoir ça parce que bah, on n'aura pas l'autofinancement. Mais bon, si on a déjà du patrimoine, c'est intéressant pour diversifier. Si on est jeune et qu'on veut absolument dégager l'autofinancement, on va utiliser des techniques un petit peu comme la colocation moto ou le boxage qui permet de doubler ce genre de rendement, voire parfois de les tripler.
Ah oui, alors pour nos auditrices et nos auditeurs, important. Peut-être compléter. C'est-à-dire que sur, au lieu de louer... une place de parking pour une automobile, en fait, on le divise peut-être en trois, et ça nous permet, ou trois ou quatre, et ça nous permet d'avoir quatre loyers. Et j'imagine que la somme des quatre loyers est supérieure, évidemment, au loyer d'une seule voiture.
Exactement. Dans le meilleur des cas, vous avez deux motos, ça fait le loyer d'une voiture. Mm-hmm. Voire dans des emplacements un petit peu plus sympas, comme la rue de la Paix ou quoi, vous avez trois motos, ça fait l'emplacement d'une voiture, et puis vous rajoutez la quatrième, voire une cinquième, si la place est proportionnée comme il faut. Quoi.
Ça, c'est investir malin et rusé.
Et rusé.
Hein, on va peut-être voir le nom de l'émission. Oui. Hein. Très bien. Donc, pour les investissements immobiliers classiques, on passe évidemment par un prêt immobilier. Est-ce que vous pouvez nous dire comment les choses se font avec les banques ou avec les courtiers? Comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à quelqu'un qui veut investir dans un parking ou un garage? Et quels sont un peu les trucs à leur donner de manière à ce qu'ils puissent adhérer à ce projet?
Alors déjà, ils réagissent très bien, sauf les courtiers qui, en dessous de 80-90 000 euros, le projet, ils ne vont pas le prendre parce qu'ils n'ont pas assez de marge pour se rémunérer. Oui. Donc on va aller voir plutôt une banque traditionnelle. Et là, il y a deux cas de figure. Soit vous tombez sur un conseiller qui veut vous vendre un crédit conso pour acheter de l'immobilier. Donc dans ce cas-là, va falloir soit vous ramer, soit vous allez voir l'agence d'à côté parce que le gars, clairement, il ne fait pas son métier ou on lui a donné des objectifs de vente sur des crédits conso. Mmh. Vous achetez de l'immobilier, donc c'est finançable par un prêt immobilier traditionnel. Que ce soit vous achetez à l'unité, vous achetez en lot, après on va adapter le montant du crédit. Faut se dire que pour un banquier, c'est le même boulot de faire un prêt à 10 000 qu'un prêt à 100 000. Donc il va falloir aussi alterner le type de projet.
Oui.
Tantôt petit, tantôt moyen, tantôt gros, en fonction de ce que vous allez trouver. De toute façon, vous connaissez, hein, dans l'investissement immobilier, ça se construit sur plusieurs années, on fait plusieurs projets, on les enchaîne. Donc, et ça, le banquier, il adore parce que y a une approche de risque qui est intéressante en termes de diversification. Et puis, ces multitudes de petits loyers qui tombent, ils adorent ça. Quoi. Mmh.
Mmh. Donc, vous faites malgré tout un business model de manière... à leur présenter ça en leur disant voilà, il y a de la demande, genre de choses, j'imagine.
Ah, oui, comme un investissement classique. Ouais. Hein, ouais. Il faut prouver que vous savez de quoi vous parlez, avec des tableurs, des études locatives, tout ce qu'on parle aujourd'hui, il faut que ce soit dedans.
D'accord.
Ok. Alors ensuite, un élément qui est parfois, un peu oublié dans les projets, c'est la fiscalité. Mm-hmm. À quoi on peut s'attendre sur les parkings? Est-ce que c'est comme un bien d'habitation classique? Et puis surtout, est-ce qu'il y a des astuces justement pour, passer par des SCI ou des choses comme ça, justement pour se faciliter la vie ou en tout cas encore avoir une astuce rusée?
Mais il y a toujours des bonnes surprises avec la fiscalité, Gaëtan.
Ah oui, on est en France. Hein,
donc on reste sur de l'immobilier, hein, comme tu l'as dit. Donc le seul truc, c'est qu'on peut pas faire de parking meublé, donc on va éliminer le LMNP et puis on va rester sur les deux options. L'IR, qui est parfaite pour commencer, acheter ses premiers parkings, on va pas se casser la tête avec une SCI.
Donc,
on part
IR, à l'IR. Impôt sur le revenu.
Voilà, exactement. Pardon. Avec soit le régime réel, soit le micro foncier, avoir en fonction des calculs ce qui coûte le moins d'impôts. Et puis si une fois qu'on s'est pris au jeu, qu'on a acheté un ou deux parkings et puis qu'on veut accélérer, on peut passer sur une SCI à l'IS. Ce qui est intéressant, parce que donc IS, impôt sur les sociétés, qui permet en fait d'avoir une diversification fiscale. Mm-hmm. Moi, par exemple, pour 2018, comme j'avais les deux, ça a monté en IR, ça a baissé à l'IS. Donc c'est intéressant. Moi, je n'ai pas payé plus d'impôts depuis 2018, alors qu'il y a certains qui étaient qu'à l'IR et qui sont fait truander. Important, par contre, c'est que l'IS... Comme on a une comptabilité de société, ça coûte 600 à 700 euros tous les ans.
Pour l'expert comptable.
Pour l'expert comptable, il faut un certain volume. D'accord. Et donc, si vous achetez un ou deux parkings comme ça, ça va faire le loyer des deux parkings, donc vous n'allez pas vous y retrouver. Donc, il faut quand même une masse d'investissement qui soit sympa. Et puis, comme dans l'IS, on peut déduire plus de frais, on peut déduire notamment les frais de notaire. Quand on fait des achats de parking à l'unité, on a souvent 10-15% de frais de notaire à payer. Donc, si on peut les passer en charge, c'est tout bénéfique.
Par contre, lors de la revente en IS, Enfin, peut-être que vous ne revendez pas les parkings.
Moi, je suis plutôt un buy and wait. Hein, donc, en mode investissement, j'achète et je ne revends pas. J'ai revendu qu'un seul lot sur les 7 que j'ai achetés.
Ouais.
Mais oui, effectivement, la plus-value après, ça se calcule. Il faut un simulateur. Moi, je me suis créé Renta SCI. Je calcule IS hier. Et puis, je regarde en fonction des lots. Il y en a clairement, ça pense pour l'IR, d'autres pour l'IS. Mmh. Et puis, au milieu, après, vous choisissez. Des fois, il y a peu de différence entre les deux, même si on se fait un petit peu assassiner à la remonte.
D'accord. Donc, si on veut finalement se lancer dans l'aventure des parkings, est-ce que vous pouvez nous donner finalement les précautions à prendre? Et puis, pourquoi passer finalement par du coaching que vous proposez, d'ailleurs, sur votre site parkinggarage.fr, plutôt que de se lancer seul dans l'aventure en essayant de se procurer des informations par-ci, par-là?
Alors, comme tout investissement, l'investissement dans le parking d'immobilier, c'est risqué. D'accord. Donc, vous avez, il n'y a pas de rendement s'il n'y a pas de risque. Hein. Donc, l'idée c'est de réduire ces risques au maximum en se formant, soit tout seul en faisant des visites ou en lisant tout ce qu'il y a de disponible sur Internet. Et puis, si on veut aller plus vite, on peut évidemment faire appel à mes formations ou mes services. Je voulais juste raconter deux histoires. Là, j'ai Jérémy que j'ai rencontré à Nantes. Je faisais une conf et tout il y a 2-3 ans. Et puis, on est resté en contact. Il n'a jamais voulu acheter des formations. Et là, le dernier mail qu'il m'a envoyé, c'était un petit peu coton parce qu'il a acheté une place de parking. Il y a 6 mois, il me demandait, j'arrive pas à la louer, c'est quoi les sites, les machins, tout ça. Donc, je l'ai dépatouillé comme je pouvais, mais il n'arrive toujours pas à la louer, quoi. Donc, il a fait un mauvais investissement. Et là, il en est rendu à essayer de poursuivre un acheteur qu'il a trouvé pour se débarrasser de sa place. Donc, vous imaginez, vous vous débrouillez tout seul, vous achetez de l'immobilier avec un bien où ça ne va pas, ça marche aussi pour les parkings. Vous pouvez vous planter. Et puis, à l'inverse, les gens qui me font confiance, ils ont des résultats plus rapidement, tout simplement. Mm-hmm. Et puis, ils multiplient les opportunités, ils ont plus de rendement. Voilà, c'est l'avantage de bénéficier de quelqu'un de l'expérience, quelqu'un qui vous prend la main, qui a 234 garages, donc forcément, je sais ce qui se passe avant, je sais ce qui se passe après, et puis il y a toute la communauté, comme vous avez une communauté aussi autour de Construire sa retraite, ça vous rend plus intelligent et plus affûté en tant qu'investisseur.
Et puis, on peut très rapidement, il ne faut pas se le cacher, contracter le virus de l'investissement, parce que si c'est quelque chose qui marche bien, eh bien, on a envie d'aller d'en faire d'autres, de manière à faire grossir l'activité, ça C'est vécu.
Et puis, on le rappelle souvent aussi, le fait que c'est des choses qui ne se voient pas à l'école, effectivement. Et donc, faut essayer de profiter de l'expérience des personnes qui passent par ces succès ou ces soucis, en tout cas, en tirer profit. Ça, c'est clair.
Il faut partager les deux, les succès comme les soucis, parce qu'il y en a... Il y a les deux.
Il y a les deux. Alors, maintenant, si on passe à la question du mois qui est d'Isabelle de Houdan.
Dans les Yvelines.
Dans les Yvelines. Avec toutes ces normes de dépollution là, qui apparaissent, et puis on sent quand même une volonté assez générale des grandes villes de pousser les véhicules en dehors des agglomérations. Par rapport à ça, quel est l'avenir des parkings? Est-ce que finalement investir dans les parkings, c'est toujours une bonne affaire par rapport à cette tendance?
C'est une bonne question. Je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne vais pas pouvoir répondre très précisément à Isabelle. Je peux juste lui donner une approche de gestion de patrimoine, on va dire assez traditionnelle, où en fonction des scénarios qu'elle peut imaginer, que ce soit la voiture autonome, certaines politiques publiques, eh bien, soit les parkings vont disparaître, mais moi ça me paraît plus probable, mais ça me paraît plus juste de dire qu'il y a de la demande qui va se déplacer. Elle va peut-être, en fonction des scénarios que Isabelle imagine, elle peut se dire, si se produit ça, peut-être que dans tel quartier ça va monter et dans tel autre ça va descendre. Et donc dans ce cadre-là, d'essayer d'investir là où elle sent que ça va monter. Mais dans tous les cas, on met jamais tout dans l'immobilier, on met jamais tout dans les parkings, dans son patrimoine, on diversifie. Et dans cette optique de diversification, il y a la problématique de stationnement, c'est celle à laquelle elle fait référence Isabelle, mais faut pas oublier qu'il y a aussi des garages, et dans les garages on peut mettre autre chose qu'une voiture, on peut mettre des meubles, et là on passe sur un besoin de stockage. Et moi je suis bien plus à l'aise effectivement avec d'avoir la réponse aux deux besoins via des parkings et des garages, comme ça c'est beaucoup plus
toujours
sécurisant.
Avoir un plan B.
Exactement. Okay. Et là, ce marché-là, il est en plein boom, le stockage. Ouais. Regardez ce qui se passe en pub et ailleurs. Ouais.
Un grand merci, Julien Bédoué, le monsieur parking en France. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes fondateur du site parkinggarage.fr, site spécialisé dans l'accompagnement et le coaching d'investissement dans les parkings et les garages. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construiresaretraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'autres investissements malins. et peut-être même rusé, Gaëtan. N'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui. Ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Merci Julien.
Merci à vous.
Investir Malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefèvre, cofondateurs du site construiresaretraite.com.